Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Exquise Esquisse. Aujourd'hui, je reçois une femme qui ne s'est pas contentée d'une journée pour défendre ses droits et vivre de sa passion. Lorsque vous entendez son nom, vous commencez à rêver. Isabelle Damerose. Bonjour Isabelle.
Bonjour Catherine.
Isabelle, tu es chanteuse lyrique, mezzo-soprano et pianiste. Ça n'a pas été facile pour toi de te diriger dans ce monde musical.
En effet, ça n'était pas facile quand j'étais petite, car ma maman ne voulait pas que je fasse de la musique et surtout que je n'ai pas la prétention d'en faire un métier. Donc, je me débrouillais quand j'étais toute seule pour coller des petites gommettes de couleur sur le piano qui était à la maison et puis travailler à ma façon. C'est-à-dire que j'ai une particularité, c'est que je vois la musique en couleur, qui s'appelle la synesthésie. Et donc, je collais des gommettes de couleur qui, pour moi, étaient symboliques d'une tonalité particulière au piano. Et donc, j'ai commencé à travailler comme ça, en cachette. Et de plus, là, c'était des souvenirs de quand j'avais 3 ans. Il y avait un tourne-disque avec deux petits 45 tours que j'écoutais de manière totalement obsessionnelle. Il y en avait un, c'était « Rêve d'amour » de Liszt. Et l'autre petit 45 tours, c'était La montagne de Jean Ferrat. Et voilà, donc je me disais, un jour, je ferai ça.
Oui, ça te faisait rêver, le rêve d'amour. D'ailleurs, on pourrait peut-être en entendre un extrait.
Thank you.
Très joli, en effet. Donc, tu sentais déjà que la musique était dans ta vie, avait une place dans ta vie.
La musique, pour moi, c'était comme une respiration, comme une façon d'être au monde et surtout d'approcher la beauté. Et c'était vraiment une fascination, c'est-à-dire c'était pas quelque chose d'extérieur que je pouvais même dire aimer. C'était quelque chose qui faisait partie de moi et qui, quand j'écoutais de la musique, ou quand j'essayais de pianoter ou de chanter, je me disais là, je suis vraiment moi-même et je vais explorer un monde qui me semble tout à fait merveilleux, infini et plein de possibles.
Oui, tu étais vraiment dans ton monde, en fait. Quand...
J'étais dans mon monde, puisque j'étais une petite fille très renfermée, très timide et qui parlait très peu. Donc, je vivais quand même mes émotions essentiellement par le prisme de la musique.
Et alors, à 14 ans, tu as fait une belle rencontre qui va changer ta vie, finalement.
Oui, parce que pianoter toute seule, c'est une chose, mais avoir la prétention de jouer une sonate de Beethoven, c'est autre chose. Donc j'ai réussi, ma maman a quand même accepté, quand j'avais 14 ans, à jouer en Josas dans les Yvelines, de me laisser prendre des cours de piano avec une très très grande pianiste néo-zélandaise, Vera Moore, que certains pianistes connaissent. Et cette pianiste était déjà assez âgée quand j'étais petite et elle prenait très peu d'élèves, une dizaine. Et j'ai eu la chance qu'elle m'accepte et je suis allée régulièrement tous les samedis matins prendre des cours de piano. Et là j'ai su que ça allait être ma vie.
Mais en fait, Vera Moore, tu l'as rencontrée et c'est elle qui a décidé, ta maman, d'accepter que tu prennes des cours, c'est ça ?
C'est-à-dire, j'ai réussi à obtenir un oui de ma maman pour déjà un premier cours. Et puis, quand ma maman a rencontré Vera Moore, elle a dit d'accord, ça a l'air vraiment d'être quelqu'un de bien, c'est une grande pianiste, exceptionnelle au moins. Elle me dira si ma fille peut faire quelque chose dans ce domaine. Et ensuite, c'est vrai que maman a beaucoup aimé Vera Moore, elles se sont bien entendues, deux très fortes personnalités. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir cet enseignement.
On va écouter un extrait de Vera Moore. Alors ensuite, Isabelle, tu commences ta carrière, tu te lances.
Oui, je me lance dans les études déjà de piano parce que ça prend beaucoup de temps. Je suis allée aussi dans différents conservatoires pour faire de la musique de chambre. Conservatoire toujours dans le 78, dans le 92. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'est vrai que d'être seule au piano, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Donc j'étais plutôt dans de toutes petites formations, donc piano-violon, violoncelle. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi que j'aimais énormément chanter des airs d'opéra. Donc je chantais des airs d'opéra, j'essayais de m'accompagner. Et c'est là que petit à petit, le chant est arrivé dans ma vie. Disons que j'étais tellement timide que me cacher derrière un piano, ça allait. Et l'idée de chanter, j'étais quand même assez terrorisée. Mais j'ai franchi le cap au conservatoire de Draveil dans le 91. Et c'est là que j'ai rencontré Frédéric Bourdin, qui a d'ailleurs longtemps vécu à Tours, et qui m'a dit « Mais oui, tu as une place dans mon ensemble ». Donc son ensemble, c'était le Concert des Dames. dans lequel je suis restée 20 ans jusqu'à ce qu'il s'arrête, hélas, pendant la période du Covid. Et donc là, c'est là que j'ai fait mes armes, on va dire, dans la musique baroque, la musique sacrée. Et c'était, je me suis dit, voilà, ma voix, elle est là. Ce qui est rigolo, c'est que quand je suis arrivée en classe de chant avec Frédéric Bourdin, j'aimais pas particulièrement le baroque, très honnêtement. J'étais plus branchée romantique, voilà, période romantique, tout ça, au piano, parce que c'est vrai que c'est totalement merveilleux comme univers. Et de découvrir le baroque, surtout le clavecin, je me disais, il y a peut-être un problème. Et puis en fait, je me suis éduquée. La musique baroque, c'est une musique qu'il faut apprivoiser. Et plus on la travaille, plus on la pratique et plus on l'aime. Et après, je suis vraiment devenue la totalement fanat du baroque, particulièrement de la musique sacrée et de tout ce côté complètement spirituel, planant, presque irréel de la musique sacrée, toujours dans des églises, dans des cathédrales, donc en acoustique naturelle. Et voilà, donc c'est là. J'ai trouvé ma voix, si on peut dire.
Tu as trouvé ta voix, dans les deux sens.
Oui.
Ouais. Et alors, donc, tu as fait de la scène, enfin, dans les églises, oui, c'est quand même de la scène.
Oui.
Et qu'est-ce que tu aimes quand tu es sur scène? Alors, bon, chanter, bien sûr, mais...
Alors, ce que j'aime, c'est cette impression que à travers la musique, à travers ce prisme, c'est vraiment un langage qui se met en place, c'est un langage d'amour, et donc qu'on va proposer au public et que le public nous rend d'une manière incroyable. C'est assez indéfinissable. Donc c'est d'abord un partage, un bonheur de proposer aux gens des choses qui sont merveilleusement belles et de les faire participer à ce monde qui est accessible en fait, qui est accessible à tous puisque la musique touche l'âme, nous touche à l'intérieur profondément, puisqu'en fait ce sont un ensemble de vibrations et on est fait de vibrations en tant qu'humain. Tout ce qui est vivant vibre en fait. Donc c'est cette proposition d'aller vers un univers de beauté qui est important pour moi.
Alors tu as fait des concerts et puis tu as aussi décidé d'enseigner justement pour partager.
Oui, voilà, exactement, l'enseignement. Alors, je suis d'une famille d'enseignants, même si ce n'était pas du tout dans le domaine artistique. J'ai quand même ça, je pense, dans mon ADN. Et puis, c'était l'envie de, encore une fois, l'envie de transmettre d'une autre façon, pas seulement les concerts, mais aussi la chance que j'ai eue en rencontrant des très grands maîtres. C'est une chance qui est assez rare et j'ai voulu, à mon avis, l'idée c'était de passer le flambeau. Voilà, si on peut avoir une image.
D'accord.
Voilà. Oui. Continuer cette transmission, cette façon d'enseigner qui est quand même basée sur la poésie, sur un échange bienveillant, doux, patient et voilà, et pas seulement technique, puisqu'en fait la musique c'est d'abord un langage d'amour, donc il faut la technique, mais. C'est l'interprétation et l'échange qui, pour moi, est primordial.
Oui, avoir les sensations.
Les sensations, voilà, les sensations. Apprendre à se connaître, parce que finalement, on va au fond de soi-même quand on se met à nu sur scène ou quand on interprète quelque chose d'une manière très sincère. Donc, c'est aussi un chemin de connaissance de soi et de lien avec les autres.
Et alors, donc, quand tu enseignes, comment tu enseignes ? Enfin, quelle est ta méthode ?
Alors que ce soit au piano ou au chant, il y a une première partie du cours qui comporte des petits assouplissements, des choses très simples pour un petit peu délier le corps et puis se sentir relâché d'un point de vue musculaire, parce qu'en fait c'est très important de ne pas garder des tensions musculaires quand on veut chanter ou être au clavier. Donc pour garder une certaine souplesse, donc ça prend à peu près 5-7 minutes. Ensuite, il y a un travail pour ce qui est du piano, bien sûr, la posture est très très importante. Et puis, on commence avec des toutes petites choses, connaître son clavier, jouer des petits morceaux faciles mais assez jolis. Ensuite, j'y vais doucement. Le solfège, il est intégré au morceau, en fait. Donc, ça fait peut-être 5-10 minutes dans le cours, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis, pour ce qui est du chant, il y a toute une partie de vocalise qui peut prendre une demi-heure, si ce sont des élèves débutants, où on va découvrir sa voix. Et ça, c'est toujours très rigolo, parce que les vocalises, on se dit, mais je ne savais pas que je pouvais faire ces
Ah
sons.
oui, il découvre.
Voilà, c'est une vraie découverte. Et ce qui est très particulier au chant, c'est que notre propre voix de l'intérieur, ben on la connaît depuis toujours, mais de l'extérieur, c'est une découverte.
C'est différent, oui.
C'est tout à fait différent. C'est pour ça qu'un enseignant est important, surtout dans les débuts, pour guider. Mais parfois, la personne est très perturbée d'entendre des sons, par exemple, très aigus pour un homme qui a une voix grave. Et puis, quand on monte les vocalises, il se découvre une voix de contre-ténor, c'est-à-dire une voix très aiguë, qui est en fait la voix d'enfant avant la mue, qu'on peut retrouver avec des techniques particulières en faisant des vocalises. Donc, ce sont des découvertes, moi, que je trouve extraordinaires, parce que les gens sont étonnés, contents, et c'est un côté vraiment jubilatoire de découvrir les capacités de notre propre voix quand on travaille les vocalises et le chant.
Oui, j'imagine, et puis de découvrir finalement qu'on est capable de faire ça, enfin comment, développer sa voix, ça donne aussi de la confiance en soi, j'imagine.
Oui, et puis et au piano également, là j'avais justement une de mes élèves hier soir qui me disait, mais je pensais vraiment que j'étais pas du tout capable, j'ai essayé, et puis elle était ravie, elle a dit, mais déjà en quelques mois, j'arrive à faire des morceaux, et je lui ai dit, mais bien sûr, bah, personnellement, j'avais aucun doute, c'est juste oser y aller. Et c'est vrai que si on ose, bon, un piano, c'est vrai qu'on a tendance, on peut dire à se cacher derrière l'instrument, mais bon. Mais par contre, le chant, où on est vraiment face au public, sans rien, il faut quand même être courageux pour le faire, pour avoir cette démarche. Mais les personnes, oui, ils se rendent compte en fait qu'ils se dépassent eux-mêmes. Et comme ils ont franchi déjà une porte, en n'écoutant pas leur peur, eh ben ils gagnent en confiance complètement. Ils gagnent en confiance. Et puis aussi dans le lien aux autres, il y a une différence.
Ah
C'est-à-dire
oui.
ils seront de bien meilleurs communicants.
Oui, parce qu'il s'ouvre, en fait.
Parce qu'ils s'ouvrent.
Eh oui.
Ils s'ouvrent
Eh
d'abord
oui.
à eux-mêmes et ils s'ouvrent, voilà, par là même, ils s'ouvrent aux autres.
Il faut oser, il faut aussi s'entraîner.
Oser, oui, s'entraîner. Alors les cours de piano, bien sûr, qu'il y a des exercices, des petites choses à faire en dehors des cours, c'est évident. Les cours de chant, c'est un petit peu comme les cours de danse, c'est-à-dire que c'est vraiment dans les débuts, pendant le cours, que les vocalises sont les plus efficaces, parce qu'il faut les mettre en place et il faut que le professeur soit là à dire là c'est bien placé, là moins.
Ah d'accord.
Et bien sûr, sinon, quand c'est du classique, il y a des airs très simples à travailler. Quand ce sont des chansons, moi je vais demander, oui, évidemment, de les écouter, de les travailler, d'apprendre par cœur éventuellement les textes. Mais c'est surtout les débuts, ça peut être un peu désarçonnant, c'est surtout beaucoup de techniques. Mais des choses très simples, apprendre à connaître son corps, savoir ce que c'est qu'un diaphragme, ce que c'est que le muscle, le psoas, enfin des petites choses toutes simples. Qui font qu'on arrive à comprendre comment fonctionne notre
Oui,
corps.
comment ça fonctionne.
Ouais.
Et alors, dans toute cette activité musicale, Isabelle, quels sont tes goûts?
Alors, mes goûts musicaux, ils sont en fait très éclectiques parce que, bon, mon grand chouchou, pour moi, l'éternel, le plus grand, c'est quand même Jean-Sébastien Bach. Ça, c'est sûr, parce que la beauté, la complexité de sa musique, je trouve que tout est dit. Néanmoins, j'aime beaucoup aussi les contemporains comme Arvo Pärt, qui est un compositeur estonien qui fait des choses, notamment des compositions pour les voix qui sont sublimissimes. Et bon, il y a des compositeurs vivants, contemporains, qui font des choses, mais vraiment très belles, très harmonieuses et qu'on connaît peut-être un peu. Sinon, j'aime beaucoup toute la période de musique répétitive comme Philip Glass. Donc une esthétique très fine. Je pense aussi à tout à fait d'autres domaines. J'aime beaucoup le vieux rock des années 70, les Pink Floyd, les Who, voilà, ces grands groupes mythiques. J'aime beaucoup la musique planante. Donc, quand je cite les Pink Floyd, c'est un petit peu ça. Et puis, dans les musiques un peu planantes aussi de maintenant, il y a Dead Can Dance avec Lisa Gérard. Donc, c'est toutes ces... c'est très, très varié. Je pense aussi là, à Woodkid et puis évidemment à tous les grands chanteurs de chansons françaises qui nous font pleurer, comme Jacques Brel, tous les grands, bien sûr. Parce que c'est pour moi vraiment l'interprétation et ce qu'il va y avoir dans une chanson ou dans un air qui va me toucher tout à fait particulièrement. Donc par exemple, voilà, si on va... On va vers les grands classiques, évidemment. On va... Tout le monde connaît La Calasse parce qu'il y a ce côté émotion qui est sublimissime. Donc c'est ça qui me fait vibrer. Et puis, dans les musiques actuelles, il y a aussi des groupes que j'aime bien, des musiques que j'écoute, comme la musique brésilienne, qui me touche particulièrement depuis que je suis enfant. Alors, pourquoi je ne pense pas avoir d'origine brésilienne, mais il se trouve que j'ai eu une copine quand j'avais 14 ans qui avait vécu très longtemps au Brésil et elle était tout à fait fascinée par le Brésil. Et j'ai gardé ça, sans en faire jusqu'à présent de musique de bossa nova, mais c'était resté dans un coin de ma tête. Et en fait, là, avec le Covid, avec beaucoup de choses qui se sont arrêtées, hélas, cette période quand même de rupture très difficile, sans concert... Sans élèves, je me sentais quand même vraiment perdue. C'était une période qui était trop longue. C'est pas mal peut-être de s'arrêter 6 mois et de réfléchir, mais là, pour moi, c'était beaucoup trop long. Et après cette période, quand je suis venue à Tours rejoindre mes fils, je me suis dit justement la musique brésilienne et la bossa nova, je vais peut-être essayer. Et puis là, ça fait donc quelques mois que j'apprends le portugais et que je chante des musiques brésiliennes.
Oui, c'est dans un de tes projets.
Voilà.
Mais avant de nous parler de tes projets, alors déjà, dans tes goûts musicaux, si tu devais partager un morceau avec nos auditeurs, lequel choisirais-tu ?
Ce serait Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt, pour qu'ils découvrent aussi que les compositeurs contemporains, c'est génial et que c'est trop peu diffusé.
Alors, pour résumer, Qu'est-ce que t'apporte la musique? Et qu'est-ce qu'apporte la musique?
Mais en fait, la musique, je pense que c'est le langage, c'est le langage de tous les humains et je dirais même de tout ce qui est vivant, puisque même les animaux, les plantes, tout ce qui est vivant est sensible à la musique. Donc c'est une énergie qui nous rassemble tous et qui peut être aussi un refuge, qui est un médicament aussi. Je dis carrément médicament dans le sens que ça soigne. Le corps, ça soigne l'âme, ça relie les gens. Et il y a maintenant quand même pas mal d'études scientifiques qui sont faites là-dessus, sur les effets par rapport à la douleur, notamment sur les enfants, dans les hôpitaux. La musique, quand elle est présente, elle nous porte, quoi, et elle nous porte vers la beauté. Et la beauté, pour moi, est utile et nécessaire.
Et justement, de la musique comme médicament, tu as un projet que tu aimerais bien mettre en place.
Oui, je souhaite mettre en place des ateliers de chant, de sensibilisation à la musique à l'hôpital. Donc je suis en train de parler à une infirmière à l'hôpital de Tours, donc j'en dirai plus une prochaine fois.
Oui, avec plaisir.
Voilà.
Voilà. Et comme autre projet, donc tu as un projet de spectacle avec la Bossa Nova.
Voilà, exactement. Donc avec un guitariste. Donc là, j'aurai à peu près 18 chansons. Donc des chansons de Bossa Nova traditionnelles qu'on va peut-être revisiter d'une manière un petit peu plus moderne au niveau de l'orchestration. Et puis quelques chansons espagnoles de Luz Casal. Et des chansons aussi de Mercedes Sosa. J'ai envie de faire un programme doux et très différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que je sens que c'est le moment, probablement que voilà, on prend des routes et puis après on en prend une autre, et là c'est le moment pour moi. Et j'ai un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, donc là je fais des recherches pour faire un programme de femmes compositrices, donc de chansons et d'airs classiques de différentes époques, seulement écrites par des femmes compositrices.
Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes.
Voilà, exactement, exactement.
C'est une façon de défendre.
De défendre, de rendre hommage aux femmes et peut-être de rendre les femmes compositrices un petit peu plus visibles qu'elles ne le sont.
Oui, de leur donner une place dans l'univers musical.
Voilà, exactement, oui.
Merci Isabelle. Si on veut te contacter, où peut-on le faire ?
Alors, donc je vais déjà donner mon téléphone. Oui. C'est 06 86 81 37 44. J'ai un site internet, isabelle-damerose.fr et mon adresse mail isabelle.damerose@orange.fr.
Merci beaucoup Isabelle Damerose et je vous retrouve bientôt pour une prochaine Exquise Esquisse.
Merci Catherine.